15 avril 1983, Rime.
Nous allons continuer d'entrer dans la métaphysique de l'acte et de la puissance. Nous l'avons déjà fait. La dernière fois, je vous ai rappelé un peu ce que nous avions fait de l'utilité de cette recherche. Bien comprendre le lien entre le point de vue de l'acte et le point de vue du bien. C'est une chose importante puisque c'est le lien entre l'éthique et la métaphysique. Et je vous avais dit la dernière fois que pratiquement au cœur de toute la théologie de saint Thomas, dans sa réflexion métaphysique à l'intérieur de sa théologie, il y a bien cette réflexion, quels sont les liens entre l'être et le bien, comment concevoir la priorité de l'être sur le bien, comment concevoir la priorité du bien sur l'être. Bien. Aristote se pose la question tout à fait différemment, mais quand même, il ne faut jamais l'oublier, qu'il est en face de Platon. Platon a dit que le bien est au-dessus de l'être, sur-être, super-être, puisque le bien n'implique pas l'ousia, et que l'ousia, c'est l'être. Le bien n'implique pas de substance, la substance, c'est au niveau de l'être, au niveau de la forme. Alors, on comprend très bien le problème d'Aristote. Il a montré que on ne peut pas identifier l'être avec le premier intelligible. Et c'est toute sa découverte de l'ousia, c'est toute sa découverte de la substance. L'être est au-delà de l'intelligibilité, puisque l'intelligibilité est propriété de l'être. Si c'est propriété, c'est donc une conséquence. Ce n'est pas premier. L'être est au-delà de l'intelligibilité. Et le principe premier de l'être, c'est l'ousia, la substance. Mais le principe dernier de l'être, que la substance ne peut pas dire, c'est l'être en acte. Et en précisant que l'être est au-delà de l'ousia et que l'être est au-delà de l'intelligibilité, est-ce qu'on pourra, par le fait même, comprendre le lien qui existe entre l'être et le bien? Oui, bien. Si l'être s'identifie à l'intelligibilité, nécessairement, le bien est au-delà de l'être. Puisque le bien, c'est ce qui suscite en moi un amour. Et l'amour est plus que l'intelligibilité. Les raisons du cœur sont quelque chose qui échappe aux raisons que je peux formuler, celles que je comprends. Il y a quelque chose dans l'amour qui est toujours au-delà de ce que je comprends. L'amour en lui-même enveloppe l'intelligibilité et est au-delà de l'intelligibilité. Il a quelque chose de plus. Je ne peux pas ramener l'amour à l'intelligibilité. Et donc, si l'être égale l'intelligibilité, l'amour est au-dessus. Et par le fait même, le bien. Si au contraire je découvre que l'être est au-delà de l'intelligibilité, le problème se pose de nouveau. Est-ce que je peux saisir les relations entre le point de vue de l'être et du bien? Je suis persuadé que dans toute la recherche d'Aristote dans le livre Theta, tout cela est présent. Est-ce que l'être en acte est-il au-delà, est-il ce qui va me permettre de préciser ce que c'est que le bien, ou est-ce que le bien est au-delà de l'être en acte? Et voilà comment, je crois, nous devons poser le problème, non seulement pour Aristote, mais je crois même pour nous. C'est le même problème qui se retrouve aujourd'hui. Est-ce qu'au fond, quand je parle de l'être, est-ce que l'amour est au-delà de l'être? Dieu sans l'être, hein, n'oubliez jamais. Ça nous repose le problème avec beaucoup d'acuité. Et qu'au fond, quand je dis Dieu sans l'être, ça prouve que pratiquement, j'ai ramené l'être à la position platonicienne. Je suis platonicien, tout simplement. On devrait mettre ça en dessous du livre, Dieu sans l'être, je suis platonicien. Et un invétéré platonicien, fidèle à Platon à travers tout. Ce que Heidegger dit, n'est-ce pas ? Heidegger dit, vous savez bien, et il faut être heideggerien, ce qui est très curieux. Heidegger dit textuellement que toute la philosophie occidentale n'est qu'une paraphrase de la philosophie platonicienne. Parce qu'on n'a plus saisi l'entelekeia. On n'a plus saisi. Alors, quand on saisit l'être en acte, on saisit l'être dans ce qu'il a d'ultime. On saisit la fin de l'être. Et on saisit l'être en acte comme l'au-delà de l'être en puissance. L'être en puissance étant relatif, totalement relatif à l'être en acte. Sauf dans l'ordre du devenir individuel. Dans l'ordre du devenir individuel, l'être en puissance est premier. Et donc l'être en acte présuppose l'être en puissance. C'est très important de préciser cela, parce que ça maintient que l'être en devenir, l'être en mouvement, a quelque chose de propre. Ce n'est pas en saisissant l'être de la manière la plus profonde, pour moi, hein, par rapport à moi, parce que je le saisis toujours analogiquement, que je peux négliger le devenir. La tentation permanente platonicienne. Je saisis l'être, je n'ai pas besoin de saisir le devenir. La tentation permanente de la métaphysique, quand elle s'idéalise. Et c'est une tentation permanente de la métaphysique de s'idéaliser. Ça, c'est la séduction de l'être. Alors, on s'idéalise et à ce moment-là, on laisse tomber le devenir. Alors, cette petite remarque très importante, dans l'ordre du devenir, la puissance est première. Donc, dans l'ordre du devenir, la puissance éclaire le devenir. La puissance joue un rôle de principe du devenir. Alors que dans l'ordre de l'être proprement dit, l'être en puissance n'est pas principe. Tandis que les principes du devenir, le devenir implique toujours deux principes. Toujours. Je ne peux pas ramener le devenir à quelque chose de simple. Il implique toujours deux principes. Il implique la matière et la forme. Il implique l'acte et la puissance. Et la puissance est un coprincipe à ce moment-là. C'est la matière. C'est un coprincipe. C'est un matière. C'est un principe propre. C'est donc, ce n'est pas seulement ce qui est totalement relatif. Ce qui est totalement relatif à un autre n'est pas principe par définition. Ce qui est entièrement dépendant d'un autre, ce qui est totalement relatif à un autre n'est pas principe. Il est second. Quand je dis que la matière, quand je dis que l'être en puissance est principe, c'est qu'il a en lui-même quelque chose qui nous éclaire sur le devenir. Je ne peux pas comprendre le devenir, le mouvement, sans la matière. sans l'être en puissance. Vous voyez, ça, c'est très important de bien saisir ça, parce que ça nous permet de comprendre que nous avons toujours besoin d'un plus petit que nous. Si haut que vous allez au point de vue métaphysique, si vous oubliez le devenir, vous perdez pédale. Et vous tombez dans l'idéalisme. C'est-à-dire que vous perdez la métaphysique. Parce que c'est plus la métaphysique, alors. C'est un primat de l'intelligibilité. C'est l'intelligibilité qui passe avant l'être. Et vous n'êtes plus relatif à ce qui est. Mais c'est très subtil, ça, hein. Mais c'est très important pour nous de bien saisir qu'il y a tout le temps un double regard. La philosophie ne peut pas se ramener à la philosophie première. La philosophie implique une philosophie de la matière, c'est-à-dire une philosophie du devenir. Et qu'il y a quelque chose d'irréductible dans la philosophie de la nature, dans la philosophie de la matière, quelque chose d'irréductible par rapport à la philosophie première. Et je peux ajouter que la métaphysique, la philosophie première, ne peut jamais supprimer l'éthique. L'éthique a quelque chose d'irréductible à la métaphysique. C'est désolant pour le métaphysicien qui voudrait régner, mais il ne peut pas régner. Le philosophe roi, ça c'est un désir, c'est un mythe, il ne peut pas. C'est très très important de saisir ces deux aspects irréductibles, il y a un primat de la puissance, et alors on va essayer de comprendre maintenant comment la métaphysique ne peut jamais supprimer l'éthique. Qu'il y aura dans l'éthique toujours quelque chose que la métaphysique ne peut pas dire. Et alors, par l'éthique, c'est l'anthropologie, comprenez bien. C'est l'anthropologie. Je ne peux pas dire la métaphysique suffit. Non, elle ne suffit pas. Il y a une anthropologie. Et une anthropologie qui est nécessaire. Et une anthropologie qui va assumer le devenir, du reste, parce que l'homme est essentiellement un être qui devient, et donc ça implique le devenir. Mais ça implique aussi quelque chose du côté de l'esprit et du côté de l'activité de l'esprit que la métaphysique ne peut pas dire. La métaphysique dira autre chose, alors ce serait une erreur aussi grave et même beaucoup plus grave de dire l'anthropologie n'a pas besoin de métaphysique, vous voyez, ou le devenir n'a pas besoin de métaphysique. Ce serait une erreur aussi encore plus grave. Mais il ne faut pas tomber, vous voyez, dans l'opposition. Hein. Ceux qui veulent uniquement une anthropologie sans métaphysique, moi je veux une métaphysique sans anthropologie. Nous serions les deux contraires dans le même genre. Nous devons dire, non, nous avons besoin d'une métaphysique, nous avons besoin d'une recherche de l'être comme être, c'est-à-dire de ce qui est sous le point de vue de l'être. Nous avons besoin de cette recherche, mais cette recherche ne supprime pas une recherche de la matière, parce que la matière n'est pas un principe propre de l'être. Si la matière n'est pas un principe propre de l'être, la matière, elle doit se comprendre en dehors de l'être. Alors je peux regarder la matière dans la lumière de l'être, mais il y a dans la matière quelque chose que l'être ne dit pas. Et que mon expérience dit. L'expérience du mouvement. Autrement dit, le jugement d'existence qui me conduit à la métaphysique va impliquer nécessairement quelque chose d'autre qui est l'expérience du mouvement. Et l'expérience du mouvement a quelque chose de propre. Et ce quelque chose de propre demande d'être étudié pour lui-même. Il faut étudier ce que c'est que le mouvement. Et ne pas du tout, vous voyez, le télescoper en disant « l'être suffit ». Non, pour moi, non. Dieu suffit à tout, mais Dieu n'est pas l'être. Hein, ça c'est vrai, Dieu n'est pas l'être. Dieu suffit à tout, parce que Dieu c'est l'être premier, mais c'est pas l'être. C'est pas l'être in communi, c'est pas l'être pris d'une façon universelle. Eh bien, au point de vue philosophique, c'est la même chose. par rapport à l'éthique. L'éthique a quelque chose de sui generis. Par l'éthique, l'anthropologie a quelque chose de sui generis, que je ne peux pas ramener à la métaphysique. Et je dois bien le saisir par rapport au bien. C'est ça que nous allons essayer de comprendre. Nous l'avons déjà vu, mais je le reprends, parce que c'est tellement important de saisir le joint, vous voyez, dans cette métaphysique de l'acte, c'est tellement important de bien saisir le joint entre le point de vue philosophie première et le point de vue éthique. Alors, nous avions vu, si vous vous souvenez bien, après la grande induction synthétique analogique, retenez au moins le titre, synthétique analogique, la grande induction par où je saisis l'être en acte, comme fin, comme ce qui est d'ultime, à partir des grandes expériences de ma vie. Et l'expérience première de ma vie, celle que je fais tous les jours, être celui qui est éveillé, être celui qui dort. C'est très fondamental, cette expérience. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très très important. Être celui qui est capable de voir et celui qui voit. Être celui qui est capable de contempler et celui qui contemple, et ainsi de suite. Immédiatement, dès que nous découvrons cette division à l'intérieur de ce qui est, comme ce qui est en acte, ce qui est ultime, ce qui est en acte, et ce qui est en puissance. Je peux immédiatement voir que l'être en acte va d'abord se réaliser au niveau de ce qu'il y a de fondamental dans la réalité. Et ce qu'il y a de fondamental dans la réalité, c'est le sujet, c'est le pose, le comment de la substance. C'est considérer le fait d'exister. J'existe. Le chat existe. Mais j'existe. Et mon voisin aussi existe. Et je suis irréductible par rapport à mon voisin quand j'existe. Je suis aliquid, quelqu'un. Le aliquid, latin, qui est si important. Je suis quelqu'un. Je suis un individu, j'existe. Ne me touchez pas, j'existe. Je suis en acte et je suis séparé des autres. Dans mon existence. Mon voisin n'a rien à faire avec mon exister. Et ceci est vrai même vis-à-vis des parents. Si on allait jusqu'au bout, hein, si le petit gosse pouvait dire dans son berceau, puisqu'il a l'intuition métaphysique, hein, si le petit gosse pouvait dire dans son berceau « j'existe », avec une tonalité particulière, il voudrait dire « c'est très très bien, oui oui, je suis dépendant de toi, je suis dépendant de sa mère et de son père, mais mon exister, c'est mon exister ». Et c'est vrai. C'est pour ça que les parents doivent avoir un respect vis-à-vis du gosse. C'est pas leur bien. Au sens métaphysique, c'est pas leur bien. C'est un bien qui leur est confié. Mais ce bien a son existé. Son existé propre. Il est irréductible dans son existé à l'existé des parents. Grâce à Dieu. Il est dépendant pour une quantité d'autres choses, mais il a son indépendance. Le fait d'exister. L'être en acte dans le fait d'exister. Alors, ce qu'il faut bien saisir ici, c'est la différence. Parce que je n'ai pas assez insisté là-dessus. Et je sais que pour certains, ça porte un petit problème. C'est la différence entre l'être en acte, saisi en opposition, divisé, de l'être en opposition, mais divisé, de l'être en puissance. C'est une division de ce qui est. Donc, l'émerveillant, l'être en acte. Bien saisir la différence de l'être en acte et le fait d'exister. Le fait d'être, le fait d'exister. Le fait d'exister, il est concret. Il est singulier. Il est individuel. C'est moi qui existe. Tandis que l'être en acte, il est télos. Il est fin. Donc, il est principe. Et c'est l'intelligence seule qu'il saisit. L'intelligence seule saisit cet être en acte. Tandis que le fait d'exister, c'est l'intelligence qu'il saisit. C'est bien évident que c'est l'intelligence qu'il saisit. Mais il est concret. J'existe. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Hein? Je passe du principe à une modalité particulière. L'essai, mon essai, mon exister, mon acte d'être, mon acte d'être. Et je dis mon acte d'être en fonction de ce que je suis. Donc le fait d'exister assume ce qu'on appellera une essence. Ce fait d'exister, il existe dans une substance. C'est la substance qui seule existe. C'est pour ça qu'on dit que la substance subsiste. Une réalité qui n'est pas substantielle, elle existe en fonction d'un autre. Elle existe en parasite. En fonction d'un autre. Elle existe comme quelque chose qui s'ajoute. Tandis que la substance seule, elle existe. Donc le fait d'exister est propre de la substance. Et quand je regarde le fait d'exister, qui est le propre de l'existence de la substance, comme quelque chose de concret, je peux, à l'intérieur même de ce fait d'exister, bien distinguer ce qu'il y a de détermination dans le fait d'exister, et puis son acte d'être. Son essai. Et c'est là où je fais la distinction entre essence et exister. Et c'est la première fois, au point de vue philosophique, que je fais la distinction entre essence et exister. Vous voyez bien que cette distinction, parce que c'est très important de voir à quel moment naît la distinction d'essence et d'existence. On l'a prise tellement comme distinction omnibus, hein, que je ne sais plus du tout où ça se situe, essence et existence. Il faut savoir, parce que vous n'avez jamais saisi une essence. Jamais. Le fait d'exister me permet de comprendre que la substance subsiste, elle seule, et je peux, à l'intérieur de ce fait d'exister, distinguer, dans la lumière de la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance, distinguer l'essence, c'est-à-dire la détermination fondamentale d'un être, c'est pas sa substance. Hein. Faisons attention. L'essence n'est pas la substance. La substance contient l'essence. Et l'essence explique tout simplement ma capacité d'exister. La détermination particulière d'exister. Mais c'est pas la substance. La substance subsiste. Elle existe. L'essence se distingue de l'essai. Donc, elle est capable d'exister, mais elle se distingue de l'essai. C'est l'être en puissance. Donc je retrouve au niveau du fait d'exister, la distinction de l'être en puissance et de l'être en acte. Mais je la découvre comme une des modalités particulières, fondamentales. Donc, je découvre à ce moment-là la distinction de l'essence et de l'existence. Qu'est-ce que c'est que l'essence ? L'essence doit se prendre, comme toujours, l'être en puissance n'est intelligible que par rapport à l'être en acte. Je dis bien intelligible au niveau métaphysique, au niveau philosophie première. L'être en puissance n'est intelligible que relativement à l'être en acte. Donc, l'essence n'est intelligible que dans la lumière de l'être en acte, de l'essai. Je ne peux pas regarder l'essence en elle-même, comme je ne peux pas regarder l'être en puissance en lui-même. Je le regarde toujours relativement à l'être en acte. Au niveau métaphysique, hein, faisons attention. C'est là qu'on voit l'erreur d'une métaphysique de l'essence. Il ne peut pas y avoir de métaphysique de l'essence. Avicenne a fait une métaphysique de l'essence dans la lumière du Créateur, donc dans une théodicée. Et au fond, en réalité, c'est parce qu'il était croyant. Alors, en tant que croyant, je peux dire que Dieu, dans sa science éternelle, pense à toutes les essences. Et ça, c'est parce que je suis croyant. Parce que je n'ai pas été regardé comme un Dieu contemplait toutes les essences. Et je n'en ai pas l'expérience. Si j'ai une philosophie qui part de l'expérience, je suis obligé de reconnaître que l'essence n'est connaissable que par l'acte d'être l'essai. Et que l'essence, ce n'est pas la substance, c'est autre chose, puisque l'essence, c'est l'être en puissance à l'égard de l'exister. Donc c'est ma capacité d'exister. J'ai bien l'essence en moi, c'est bien évident. J'ai l'essence en moi. L'essence, c'est quoi en moi ? C'est ma capacité d'exister de telle manière. J'existe autrement que l'hippopotame. To anthropo einai. L'exister de l'homme. J'existe à la manière d'un homme. Je n'existe pas à la manière d'un oiseau. Ce serait très agréable, mais je ne peux pas, sauf un pédocle, puisqu'il a existé à la manière d'un homme, à la manière d'une femme, à la manière d'un oiseau, à la manière d'un éléphant. Alors, il a existé selon ces manières-là. Il a existé selon ces différences-là. Il a tout ça en lui. Alors vous voyez la différence, c'est que j'existe uniquement à la manière de tel homme, et même je préciserai de tel homme, parce que je n'existe pas à la manière de mon voisin. Je respecte la manière dont mon voisin existe. C'est le respect élémentaire. Parce que dans son exister, il a quelque chose d'unique et d'ineffable. Nous avons quelque chose de fondamentalement ineffable, c'est notre manière d'exister. Chacun d'entre nous. Personne ne peut nous remplacer là-dessus. On peut nous remplacer pour beaucoup d'autres choses, mais dans notre manière d'exister, c'est impossible. Donc il y a là quelque chose d'absolument irréductible. Et c'est l'essence et l'existence. Vous voyez cette chose très forte, curieuse. Par l'essence, on dira facilement, je suis commun avec tous les hommes. C'est pas très juste, hein, puisque l'essence ne peut se comprendre que par rapport à l'acte, et l'acte est unique pour chacun d'entre nous. Alors vous voyez, mon essence est ma capacité d'exister, toute relative à mon être, à mon fait d'exister actuellement. Et donc il y a dans l'essence de chacun d'entre nous quelque chose d'unique. Si je comprends au plan métaphysique, hein, au plan métaphysique, ne comprenez pas ça au sens logique. Au sens logique, je suis en face de l'universel. Mais ne confondons pas logique et métaphysique. Et comprenons que l'essence apparaît au niveau métaphysique dans la lumière de l'être en acte et de l'être en puissance. Alors à ce moment-là, je découvre donc à l'intérieur de ce fait d'exister, je découvre l'essence distincte de l'acte d'être de l'essence. J'espère que ça, c'est bien vu. C'est important. Première modalité de l'acte, c'est l'essai par rapport à l'essence. C'est le fait d'exister. Et je dois bien distinguer ce fait d'exister de l'être en acte. Je ne peux pas identifier les deux. Puisque je précise que le fait d'exister, c'est ma manière d'exister, et que ma manière d'exister implique bien l'acte d'être, mais l'acte d'être en tant qu'il est reçu dans telle essence, en tant qu'il est reçu de telle manière. Donc je suis en face d'une modalité particulière, je dis bien une modalité particulière de l'être en acte. L'être en acte a quelque chose de plus profond que mon essai. Chose plus radicale. Je vous ai dit que c'est là où il faut faire attention par rapport à ce que dit Gilson, par rapport à ce que dit Fabreau, par rapport à ce que dit le père Geiger. Parce que eux considèrent que l'essai, c'est le caractère propre de la métaphysique de saint Thomas. Et donc ils considèrent que l'être en acte se comprend à partir de l'essai. Alors que je crois que nous devons dire que l'être en acte est découvert en premier lieu. Nous devons dire que l'être en acte est découvert en premier lieu, et que c'est lui qui me fait comprendre ce que c'est que l'essai. Et je vous ai dit, le petit indice est très simple par rapport à saint Thomas, que chaque fois que saint Thomas veut préciser ce que c'est que l'essai, il nous dit toujours « actus essendi ». C'est l'acte d'être. Alors, si c'est l'acte d'être, il définit l'essai par l'acte. Donc, par l'être en acte. Il ne fait jamais l'inverse. Alors, ceci, c'est très important, vous voyez, parce qu'on est en face de quelque chose de tout à fait premier au point de vue philosophique. Et donc, l'ordre que vous mettiez entre l'être en acte et l'essai qui détermine l'essence, qui actue l'essence, l'ordre que vous soutenez là est très très important. Parce qu'on est en face d'une première saisie de quelque chose de très fondamental. Vous voyez, je pourrais presque dire que c'est là où je saisis comment l'anthropologie est nécessairement soumise à la métaphysique. Parce que si vous dites que le fait d'exister est supérieur à l'être en acte, le fait d'exister c'est moi, le Dasein, Heidegger, le fait d'exister c'est moi. Mon fait d'exister, c'est ce qui fonde toute l'anthropologie. Parce que vous regardez l'homme qui existe dans une anthropologie. Vous regardez l'homme concret, l'homme qui existe, c'est pas l'idée d'homme, c'est l'homme concret, l'homme qui existe. Donc le fait d'exister de l'homme est au cœur de toute l'anthropologie, est présent dans toute l'anthropologie. Si donc je dis que le fait d'exister et premier par rapport à l'être en acte, vous voyez comment je mets l'anthropologie au-delà de la métaphysique. Si au contraire je comprends que l'être en acte est quelque chose d'ultime, télos, je ne dirais pas que le fait d'exister c'est télos au plan métaphysique. C'est une modalité particulière de l'être en acte. Si donc je mets l'être en acte au-dessus, je dis que l'anthropologie est enveloppée par une métaphysique. Et là, vous le trouvez tout de suite. Hein. J'espère que là, vous le saisissez. C'est important de bien comprendre l'apparition de l'essence. Comment je dois comprendre cette fameuse distinction de l'essence et de l'existence. Et alors, ne confondons pas cette distinction que nous découvrons ici avec ce qu'on a dit une thèse thomiste que le bon père Grenet a repris. La testomie, vous savez bien, ça fait partie des 24 testomies. J'en ai pas beaucoup parlé, des 24 testomies. Ce serait intéressant, à la fin de la métaphysique, de prendre les 24 testomistes. Je l'ai fait à Lérins, puisqu'à Lérins, on m'a dit, vous comprenez, ils ont de la peine à comprendre la métaphysique, il faut donner les 24 testomistes. Alors j'ai pris les 24 testomistes, parce que ça, c'est très bien, et j'ai montré que les 24 testomistes, ça ne tenait pas. C'est une erreur grande de prendre les 24 testomistes. Si on croit qu'on comprend la métaphysique thomiste par les 24 testomistes, c'est une grave erreur. Eh bien, dans les 24 testomistes, il y a une fameuse testomiste où on oppose le thomisme au suaïsme en disant « Dans toute créature, il y a une distinction réelle entre l'essence et l'existence. Dans toute créature. » Vous êtes donc en face d'un jugement de sagesse. Vous n'êtes plus en métaphysique, au sens propre. Vous êtes en face d'un jugement de sagesse. Dans toute créature. Ici, je ne dis pas en toute créature, je prends le fait d'exister. Mon fait d'exister. Mon existence. Votre existence. L'existence de l'homme. Et je dis que je distingue essence et essai. Essence et exister. Je ne dis pas dans toute créature. Ça, c'est autre chose. Je ne dis pas dans tout être. Non. Dans la réalité que je constate, le fait d'exister, je distingue essence et existence. Et je ne me pose pas la question de savoir si cette distinction est réelle ou pas réelle. Est-ce que la distinction entre l'être en puissance et l'être en acte est une distinction réelle? C'est évident, puisque c'est l'être qui est divisé. Si c'est l'être qui est divisé, c'est une distinction réelle. Ce n'est pas une idée que je divise, c'est l'être. Il n'y a pas de question de savoir si c'est une distinction réelle ou pas réelle. Elle est impliquée directement dans le fait que l'être en puissance et l'être en acte divise l'être. Si ça divise l'être, et que l'être, c'est justement ce qui est réel, je ne dis pas ce qui existe, hein, ce qui est réel, alors je dis que cette distinction, elle est réelle. C'est sûr. Vous voyez, mais distinguez bien cette manière de regarder l'essence et l'exister de ce qu'on appelle la testomiste. Dans toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Ça, il faut bien le saisir. Donc, première modalité. Deuxième modalité. Le bien. Alors, ça, c'est encore très important à bien saisir. Deuxième modalité, le bien. À partir de quelle expérience puis-je dire cela? Que la seconde modalité de l'être en acte, c'est le bien. La première, j'ai dit le fait d'exister. Je crois qu'ici, il faut prendre l'homme dans son bonheur. L'homme heureux, ou, si vous voulez, l'homme dans son amour d'amitié. Je reviens toujours à la même expérience. L'homme dans son amour d'amitié. Le fait d'exister, l'homme dans son amour d'amitié. Vous voyez, je suis en face de quelque chose, déjà, je ne dis pas plus restreint, puisque l'homme est de fait l'expérience suprême que je puis avoir, je saisis l'homme dans sa finalité. L'homme qui est parfaitement lui-même. Tout de suite l'esprit qui est dans l'homme. Parce que c'est l'homme capable d'aimer un autre, c'est l'homme spirituel, c'est l'homme dans sa volonté et dans son intelligence. L'homme dans l'amour d'amitié. Il y a deux choses à distinguer. Il y a distingué en lui son amour, et puis distinguer l'ami en tant qu'il est le bien. Je distingue les deux. L'ami est mon bien. Il est ce qui suscite en moi un amour. Cet amour n'est pas mon ami, mais il est mon lien avec lui. Il est ce par quoi je peux considérer l'autre comme mon ami. Si je ne l'aimais pas, il ne serait pas mon ami. Donc il est ce par quoi je le considère comme mon ami. Il est le quo, et l'ami est le quod. Hein, pour employer des petits passe-partout. Hein? Ce par quoi mon ami est mon bien. Mon ami, c'est mon bien, c'est ce qui m'attire. Et mon ami est au-delà de mon amour, puisqu'il est premier. C'est lui qui a été source de mon amour. C'est lui qui a suscité mon amour. Je peux donc ici, dans la lumière de l'être en acte et de l'être en puissance, redécouvrir une distinction de ce qui est en acte, c'est le bien, et ce qui est en puissance, c'est l'amour, en ce sens que l'amour est déterminé vers le bien. Il est évident que l'amour, pour le sujet qui aime, est son acte, mais par rapport à l'ami, il est dépendant de l'ami, il est donc relatif à l'ami. Il est donc ce qui est ordonné à l'ami. Il est donc une certaine modalité de l'être en puissance. Je ne peux pas comprendre ce qu'est l'amour sans regarder le bien. Puisque c'est le bien qui est source de cet amour. Et donc, pour voir la qualité particulière de l'amour, il faut regarder la qualité particulière du bien. Je n'aime pas de la même manière n'importe quel bien. Je n'aime pas de la même manière un médicament imposé pour être mon bien, et puis celui qui me l'impose. Les jours où on fait cette confusion psychologique, c'est très ennuyeux. Pour celui qui l'impose. Parce que celui qui l'impose, je l'aime comme une personne, et le médicament, je l'aime comme un moyen. Un moyen nécessaire pour arriver à la santé. Un moyen nécessaire pour arriver à la santé. Mais c'est uniquement un moyen. Celui que j'aime, celui qui me le donne, je l'aime comme un bien. Donc, mon amour est distinct. Il y a un amour qui provient d'un moyen utile, et un amour qui provient d'un bien qui s'impose à moi comme ce qui est aimé pour lui-même. S'il est aimé pour lui-même, il est aimé comme une fin. Il est donc bien aimé comme ce qui pour moi est l'acte. Ce au-delà de quoi je ne puis pas aller. Si vous relativisez le bien, il devient un moyen. Il n'est plus source d'un amour absolu, d'un amour spirituel qui s'impose à moi comme ce qui me finalise, donc ce qui est mon absolu. Il faut donc bien distinguer la diversité des amours par rapport au bien. Je suis donc ici en face d'une nouvelle modalité de la distinction être en puissance et être en acte. Et le bien apparaît comme ce qui est l'être en acte, c'est-à-dire ce qui est d'ultime, ce qui est de dernier, et ce qui est capable de susciter en moi cette dépendance dans l'ordre de la volonté, dans l'ordre spirituel, cette dépendance dans l'ordre de l'amour. Le bien est donc ce qui est acte à l'égard de l'homme. Précisons tout de suite. Le fait d'exister est l'acte de l'homme. Un acte substantiel. le bien. Et mon acte, dans la mesure où j'aime, par rapport à mon bien, par rapport à mon amour, il devient mon acte. Il est mon acte dans la mesure où je l'aime. Vous voyez donc que j'ai là deux modalités d'actes totalement différentes, irréductibles l'un par rapport à l'autre. L'un qui est mon fait le fait d'exister qui est substantiel, l'autre qui n'est pas premièrement et fondamentalement substantiel puisque c'est l'autre. C'est le bien que j'aime est une réalité autre que moi. Alors évidemment, je peux m'aimer moi-même, ça c'est un autre cas. Normalement, j'aime l'autre. Et je l'aime d'un amour qui me fait tendre vers lui. Et cet amour ne sera parfait que dans la mesure où il sera réciproque. Mais j'aime l'autre, et l'autre joue ce rôle pour moi de bien. Ce rôle pour moi d'être l'être en acte. Je vois que je suis donc en présence d'une modalité de l'acte qui est tout à fait différente. Cette modalité de l'acte, je l'atteins par mon opération. Par mon opération volontaire. Par mon opération libre. Je l'aime. J'ai conscience de l'aimer. Cette opération, elle est d'ordre intentionnel. Elle n'est pas ma substance. Elle est d'ordre intentionnel. Donc, au point de vue de l'être, elle est seconde, puisqu'elle est d'ordre intentionnel. Elle n'est pas ma substance. Donc, au point de vue de l'être, elle est seconde. Mais au point de vue de ma finalité, elle est première. Elle est ultime. Puisque le fait d'exister ne me finalise pas. Le fait d'exister n'est pas mon bien ultime. C'est un bien fondamental. Pour que je puisse découvrir ce qu'est ma finalité, il faut qu'il y ait ce premier bien. Mais ce bien ultime n'est pas mon bien fondamental. Je distingue donc là deux pôles dans ma vie, l'un qui est du côté opération vitale, l'autre qui est du côté de l'être. Et je vois que du côté vital, il y a quelque chose qui va plus loin que la substance. Ce qui n'est pas gênant du reste. C'est le propre de l'esprit. C'est que l'esprit ne peut pas se définir uniquement par le point de vue de la substance. L'esprit ne peut se définir parfaitement que par son opération. Parce que l'esprit est source de vie et que c'est son opération qui lui donne sa signification dernière, sa signification ultime. C'est son bien. Alors c'est là où il faut essayer de préciser, nous le ferons la fois prochaine, comment le bien implique bien une nouvelle modalité de l'être en acte. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de l'être en acte, mais c'est une nouvelle modalité de l'être en acte. C'est la modalité de l'être en acte par rapport à l'esprit, pas par rapport à la substance.